France Inter.
À vous qui m'écoutez en podcast, je suis sur la Grand Place de Lille dans le cadre du festival Cérimania où Karine Viard m'attend pour l'apéro. Elle est membre du jury ici. Et en public aussi, hein. Il va y avoir une ambiance de foufou, c'est le nord, hein, vous savez. Regardez, regardez, c'est Karine Viard. Elle est dans le jury à Cérimania. Je l'ai reconnue.
Oui, c'est bien. Bonjour. Moi. Bonjour.
Bonjour, bienvenue, chère Karine Viard.
Merci beaucoup.
Merci d'être venue jusqu'à Lille. Alors,
pas que pour je suis pas venue que pour vous. Hein.
Mais je préfère vous le dire. Je croyais.
Oui.
On m'avait dit que oui et non.
Bah non, non.
À la claque.
Mais ravie de vous rencontrer.
Moi aussi. Bah, je suis ravie de vous accueillir à la Chambre de commerce de Lille. Le bâtiment est magnifique. On a installé les studios de France Inter à l'intérieur. On a reconstitué un bistrot. Plus ou moins, il y a du public. Et je me réjouis de discuter avec vous, en tout cas.
Ah, merci.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Voilà, vous voyez, Karine, Cérimania, c'est comme à Cannes, mais il y a moins de vieux dans la salle. Hein, c'est, je sais pas, est-ce qu'il y a des fans d'Éric Ciotti? Ben voilà, donc on est bien à Lille.
Ils sont moins bronzés, en tout cas.
Oui, c'est vrai.
Moins bronzés que sous le soleil cannois.
C'est vrai, mais ils ont du soleil dans le cœur, c'est le nord, hein, vous savez. Karine Viard, vous faites partie du jury de cette 15e édition du festival Cérimania ici à Lille, un jury international. C'est une responsabilité que vous avez déjà endossée, sa jury, notamment à Cannes. Quel genre de jury vous êtes, vous?
Moi, quand je suis présidente du jury, ça m'est arrivé deux fois, et franchement, je fais en sorte que ce soit hyper sympa. Et donc, alors que je peux être un peu franche, directe, un peu campée sur mes positions dans la vie, là, j'étais la meilleure version de moi-même. J'ai développé des trésors de diplomatie dont je me pensais vraiment incapable.
Oui, parce que vous répétez souvent que vous avez de la sauvagerie en vous. Est-ce que quand vous êtes jury, il y a de la sauvagerie en vous?
Non. Pas du tout. La sauvagerie, c'est plutôt mes proches qui la rencontrent. C'est atroce, hein, mais c'est vrai.
Quels seraient pour vous les critères d'une bonne série? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous, en tant que jury, vous allez regarder dans ce qui va vous être proposé pour essayer d'évaluer ce qui est chouette?
Ah, ça, c'est une question.
On devrait peut-être vous la poser, parce que ça va commencer bientôt, hein, le festival.
En fait, j'en sais rien. C'est un peu... qu'est-ce qui... Moi, j'y vais sans a priori. Et j'attends de voir ce qui me percute. Mmh. Moi, j'ai des goûts très éclectiques, aussi bien dans les films, dans les livres, dans la musique. Mais juste, j'aime pas les trucs gnangnans. Et j'aime pas qu'on me manipule. J'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut que je pense. Et j'aime pas quand ça manque d'authenticité, en fait.
Très bien. Vous savez déjà ce que vous n'aimez pas. C'est déjà un bon...
C'est déjà pas mal.
C'est déjà un bon
point. À ce propos, je peux faire une pub ou pas?
Bah, allez-y.
Vous avez vu la série Adolescence? Mais c'est prodigieux. Voilà, c'est ça.
Qui l'a vu? Ceux qui ont vu, crient braderie.
Braderie.
Oh, ouais, ah ça ouais, ça fait un petit top.
Vous avez aimé ou pas? Mais c'est fabuleux, non? Les acteurs sont incroyables. C'est une mini-série de 4 épisodes. Les épisodes font environ une heure et c'est juste un plan séquence. C'est une chorégraphie, c'est une mise en scène, c'est une interprétation. J'ai trouvé ça prodigieux.
Et c'est un partenariat France Inter en plus.
C'est vrai?
Hyper bien, oui.
Ah bon?
Parfait. Oui, oui. Bah,
je ne savais pas, vraiment pas.
Et vraiment, ça n'est pas concerté. Hein. Vous serez là pour témoigner au procès. Karine Viard, pour autant, vous avez tourné dans une seule série pour l'instant, si je ne me trompe, Dans l'ombre de Pierre Scholler, qui a réalisé L'exercice de l'État. Tiens, on va faire un test. Qui a vu Dans l'ombre? Vous criez moule frite.
Moule frite.
Oh là là. Là, toute la salle a vu Dans l'ombre de Pierre Scholler, avec Karine Viard notamment. Vous incarniez une femme politique d'extrême droite. Est-ce que c'est parce que c'est plus difficile de trouver un rôle qui vous sied ou un scénario qui vous tape dans l'œil quand c'est une série?
Mais je vais être tout à fait franche avec vous, on ne m'en propose pas. On m'a proposé il y a des années une série pour TF1 où je devais être médecin. J'ai dit, ah ben non, je peux pas. Je peux pas, médecin dans les couloirs, amoureuse évidemment, un problème avec un gosse. Bon, non, c'est
une série TF1, quoi.
C'est impossible pour moi. Mais sinon, on ne m'en avait jamais proposé. Là, je vais faire une série pour Amazon UK qu'on va tourner à Marseille. Et c'est une série anglaise, donc... de Barnaby Thompson, et ça, je suis super contente, parce que c'est vraiment un challenge pour moi. C'est la première fois que je tourne une série en anglais.
Mais oui.
Ah, mais oui, vraiment. C'est vraiment un challenge.
C'est vrai.
Mais je retrouve quelque chose de tellement vivifiant pour moi, parce que j'ai l'impression d'être une jeune actrice. Enfin, je veux dire, j'arrive, j'ai l'impression d'être sans culotte à la récré, quoi. Je me jette à l'eau et c'est vraiment très, très plaisant. C'est très excitant, mais j'ai un peu peur aussi.
Ouais, il y a une remise en jeu, là.
Il y a une remise en jeu, ouais. Ouais, ouais.
Carizienne aime le risque, donc. Quand on reçoit un scénario de série...
Alors, pardon, je reviens là-dessus. Allez-y. Pas tant que j'aime le risque, c'est que j'aime pas trop quand ça ronronne. C'est-à-dire que je pourrais être cette actrice assise sur ces trois Césars. Souvent, quand j'arrive, ah bah Carine Viard, bien sûr, bah c'est cette grande actrice. Et moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que je ne me vis pas comme ça. Que moi, j'ai l'intention de durer comme actrice encore très longtemps, mais d'être surtout très excitée par les aventures qui me sont proposées. Je n'ai pas envie de me regarder être une actrice très fameuse, quoi, ou très... Je ne sais plus parler français.
Jean-Claude Van Damme est avec nous. Ça y est, parle anglais.
Ah là là.
Ah là là. C'est vrai qu'en tant que Normande, c'était en face. Hein, donc...
Et donc, voilà, ce que j'aime, moi, c'est que ça bouge, c'est que ça avance, c'est que ça change.
Ouais, c'est que c'est moving.
Exact.
Il y a une série dans laquelle vous avez joué aussi, je pense, il me semble. Votre toute première apparition à l'écran, c'était pas dans une série. C'était
dans
quoi
Maigret.
Votre première?
Voilà. Maigret.
Alors, Maigret, c'est une série.
C'est une série, ouais. Enfin...
Avec Jean Richard.
Oui,
mais
oui,
si.
Oui, 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 c'est pas. Oui, c'est vrai.
Oui, alors.
C'est pas vécu comme les séries d'aujourd'hui, mais oui, c'est vrai. Oui, oui. Avec Jean Richard, ça nous rajeunit pas.
Et alors, ça nous fait un point commun, Carine Viard, parce que moi, je regardais Maigret avec Jean Richard quand j'étais gamine avec mes grands-parents. Ouais. Mon grand-père, fan de cette série, les enregistrait sur des VHS. Et je pense que c'est un point commun avec vous, parce que vous, la série de votre enfance, c'était chez vos grands-parents, j'imagine.
Oui, absolument. C'était la Demoiselle d'Avignon. Ah. Vous vous souvenez de ça? Ah ouais.
Mais oui.
La Demoiselle d'Avignon, ça m'a tellement fait fantasmer. Mais tellement.
Marc Keller.
Et lui, surtout. Oh, je le trouvais sublime. Louis Vell. Hein, il était beau, un peu bon chic, bon genre, comme ça.
Oui, et alors, il y avait un rituel. Une série, ça arrive souvent que ce soit un rituel, ça demande un investissement quand même, c'est plusieurs épisodes, etc. Il y avait un rituel à la maison pour cette série?
Alors, je ne sais pas si c'est ça dont vous parlez, mais comme la série passait à 9h30, ah c'est ça, voilà. La série passait à 9h30, on mangeait à 6h30 l'hiver, 7h moins le quart l'été. Une,
ouais, comme dans le Nord.
Voilà. Et donc j'étais. Ma grand-mère voulait bien que je regarde cette série, parce que je disais, ah, mais il y a la Demoiselle d'Avignon. Donc j'allais au lit à 7h30. Elle me réveillait à 9h25. Ouais. Je regardais la série et je retournais me coucher après. Ouais.
Ça, c'était cadeau. Vous êtes...
Ça, c'était cadeau
quand même.
Ça,
hein.
C'était cadeau.
Et aujourd'hui, quand vous regardez une série, est-ce que vous binge-watchez? Où vous devez vous mettre en condition, il faut avoir le temps devant soi. Est-ce que vous avez aussi ce genre de rituel ou pas?
Alors moi, dans la vie, je déteste l'envahissement et j'ai eu du mal à me mettre aux séries parce que je déteste qu'on crée chez moi de l'addiction. Déjà, voilà, j'ai un certain nombre d'addictions, un peu comme tout le monde, mais enfin, quand même, je lutte contre. Donc, si en plus, il faut...
Le maroilles, hein, il faut le dire. Cette addiction au maroilles nous a mené à...
Donc, si en plus, il me rajoute les séries où je me couche à 5 heures du mat avec les yeux comme ça, parce que ça, j'aime pas. Donc, j'ai un rapport assez comment dire...
Pas d'avoir la maîtrise.
Pas compulsif, voilà. Ouais, pas compulsif. Ni à ça, ni aux réseaux sociaux. Je m'astreins à ça.
Mm-hmm. Vous dites, Carine Viard, je ne pensais pas que les filles comme moi pouvaient faire du cinéma. Là, on a évoqué un peu votre enfance, etc. Donc, c'est une fille comme moi, ça veut dire quoi?
Je n'avais pas du tout les codes. Je vivais dans la banlieue de Rouen avec mes grands-parents. J'avais envie d'être actrice. Je connaissais personne qui faisait ça. Je ne savais pas comment ça se faisait. Mon grand-père me disait, bon, enfin, tu les vois dans les réclames, elles n'ont pas du tout ton physique. Bon, je me rongeais les ongles. Tu ne pourras jamais être actrice avec des ongles rongés. Bon. C'était très, 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 très loin de moi, en fait.
Ouais. Et pour autant, vous y êtes arrivée, vous n'étiez pas inhibée en arrivant à Paris, vous avez eu de l'audace, vous avez foncé.
Bah, c'est-à-dire que j'étais la seule à y croire, donc si j'y croyais pas moi-même, franchement, personne n'allait me rattraper. Hein. Je me suis dit, ben, fais tout ce que tu peux faire, tout ce qui est en ton pouvoir pour essayer de faire ça. Mais moi, je ne pensais pas faire du cinéma, je pensais vraiment faire du théâtre au début. Mm-hmm. Je pensais faire des tournées dans des pièces, défendre des auteurs et tout ça. Et puis finalement, la vie en a décidé autrement pour ma plus grande joie.
Donc vous aviez beaucoup d'énergie pour y arriver, vous avez fait pas mal de petits boulots. Et c'est là qu'il faut que je vérifie une info
J'ai
à la source.
J'ai beaucoup couché. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une...
J'adore cette blague.
Énormément. Et j'y ai mis du cœur.
Oui. C'est d'ailleurs le conseil que vous donnez à toutes les jeunes actrices.
Oui. Hein. N'hésitez pas.
Ouais, vraiment, allez-y. Mais oui, bien sûr. Et j'appuie ce conseil, vous, évidemment. je vais vérifier une info à la source, là, parce que vous aviez beaucoup de boulot, le Burger King, tester des médicaments, parce qu'il fallait bien vivre.
Un patin à roulette devant la gare de Saint-Lazare.
Ah ouais, un patin à roulette.
Distribuer des prospectus, ouais.
Ah, oh, waouh.
Parce que j'avais fait du patin à roulette.
Ah, vous étiez la reine du patin.
À un bon niveau. Du coup, j'ai pu postuler pour ça.
Ah ouais. C'est que gamine, du côté de Rouen, il y a...
J'ai fait de la compétition en patin roulette pendant 2 ans. C'est pas non plus, mais enfin, ça m'a permis d'être devant la gare Saint-Lazare.
Et quand même,
avec,
hein,
une queue de cheval, des fringues absurdes. Et voilà.
Ah oui, ok, bon. Et est-il vrai aussi que vous avez fait de la prospection téléphonique?
Pour le RPR, madame.
Voilà. Et voilà, ça lance des carrières.
Je savais même pas ce que c'était. Et j'en avais vraiment rien à foutre. J'aurais pu faire ça pour n'importe quoi. J'avais besoin d'argent.
Oui, bien sûr.
J'ai un copain qui m'a dit, viens, tu choisis tes horaires. J'ai dit, oui. Hein. J'avais tout un questionnaire. Bonjour, madame. Connaissez-vous le RPR? Moi-même, je ne connaissais pas.
Donc, voilà, c'est ça. Donc, vous m'appelez. Bonjour, madame. Si je vous dis non, écoutez, je ne connais pas trop.
Êtes-vous sûr? Parce que vous savez que nous proposons des trucs. Est-ce que ça vous intéresserait que quelqu'un vous rappelle et vous propose un nanan? Est-ce que vous viendriez écouter? Je sais pas quoi.
Écoutez, pourquoi pas? Oui, c'est vrai qu'ils ont l'air amusants.
Non, j'étais pas très bonne.
Et alors. On est entre nous, Karine Viard. Est-ce que vous avez vu passer des valises de billets?
À là où j'étais, non, certainement pas.
Très bien, ça vous préserve. Vous disiez, le cinéma, c'était pas pour moi. Comment, quand on n'a pas de contact à Paris, à l'époque, outre les petits boulots, on met un pied? Est-ce qu'il y avait un espèce de modus operandi
Il y a toujours des gens qui vous aident, en fait, sur les chemins escarpés de la réussite, quelle qu'elle soit. Je crois qu'il y a des gens qui font toujours le lien, en fait, qui vous permettent de passer d'une marche à une autre. Donc, ces gens-là, c'est...
Mais il faut connaître la première personne qui va vous emmener dans cette chaîne.
Oui, mais après, t'es une jeune actrice,
Tu couches, hein, on rappelle. Hein.
Voilà, tu vas voir les pièces, petit à petit, tu connais d'autres gens, t'essaies de te mettre dans un cours de théâtre, tu rencontres d'autres, ils connaissent d'autres, à deux, tu vas démarcher.
À quel moment, Karine Viard, vous vous êtes sentie légitime, alors, connaissant ce parcours qui vous précède?
Mais je crois que le premier César de la meilleure actrice que j'ai gagné m'a donné cette légitimité. Si ça a une vertu, c'est vraiment celle-là. C'est que je me suis dit, waouh, j'ai quand même été reconnue par mes pairs, j'ai été validée, il y avait d'autres gens qu'ils auraient pu récompenser. J'étais quand même vraiment une jeune actrice, j'avais 33 ans, j'avais fait quelques films, c'est quand même toujours une chance. Hein.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Wouh ! On est à Lille avec Karine Viard, c'est la folie. Hein. C'est la folie, Cérimania. Hein. C'est dingue, mais quelle ambiance. Et ça ne fait que commencer. Hein. C'est jusqu'au 28. Et Karine Viard, elle est là jusqu'à la fin. Vous allez habiter à Lille une semaine, ça va être canon.
Exactement.
Je vous envie. À Cérimania, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous discutons avec Karine Viard, qui fait partie du jury de cette 15e édition du Festival Cérimania. Karine Viard, la première actrice que vous avez observée, c'était pas une actrice professionnelle, c'était un peu dans la vraie vie, votre grand-mère.
Mais elle était très originale, elle était très libre, c'était une dame qui savait ni, enfin, qui avait appris à lire et à écrire toute seule, qui me disait « je t'interdis de dire à qui que ce soit que j'écris en phonétique ». Et par ailleurs, elle était très, très maligne, très libre, très marrante. C'était un personnage. Tous ceux qui l'ont côtoyée ont été impactés, marqués par elle. Mmh. C'était une personnalité très, très forte, mais c'était ces femmes opprimées par les hommes, en fait. C'est-à-dire que moi, je viens d'un matriarcat où il y a des femmes puissantes. avec vraiment quelque chose, mais qui sont opprimés par les hommes parce que c'est la société, qui sont, sont trimballés des alcoolos, qui les tabassaient. Et c'était comme ça, en fait. Mais les femmes, dans ma famille, entre elles, se passe une espèce de tuteur de lutte, résiste. Donc ça a des avantages et aussi beaucoup d'inconvénients. Mais...
Votre grand-père, tapissier décorateur de théâtre, est-ce qu'il ramenait du travail à la maison ?
Non, parce que moi, quand je suis arrivée chez eux, ils étaient déjà retraités. Donc, il n'y avait pas de travail, mais mon grand-père était collectionneur. Il a d'abord collectionné les timbres, puis après, il a collectionné les épées. Il y en avait partout dans
les épées.
Les épées. Ah ouais. Donc, il les installait en rosace sur tous les murs de l'appart. Ma grand-mère lui disait « Pas dans les chambres, René. C'est interdit dans les chambres !» Tu m'étonnes. C'est pas du tout feng shui des armes blanches dans les chambres. Donc, il construisait des fourreaux toute la journée avec... avec force, fleurs de lys, brocart, pompons. Il écumait les salles des ventes. Toute la journée, il foutinait, comme disait ma grand-mère. Il foutinait, c'est-à-dire il faisait des petits trucs.
Génial. Notez-le pour le Scrabble. Si jamais vous jouez, il foutinait.
Mot compte double.
Ouais, vous penserez au grand-père de Karine Viard en mettant ce mot. Et vous emmenez à l'opérette aussi.
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est quoi l'opérette pour la jeune génération, peut-être Vous riez. Quand je dis pour la jeune génération, tout le monde rit dans cette salle.
Je sais pas ce qui se passe, mais... moi, j'aimais bien parce qu'il y avait beaucoup de gens, ça chantait, il y avait toujours des décors. Moi, je me souviens être allée voir l'auberge du Cheval Blanc. Donc, il y a des décors qui arrivaient par le ciel, paf, ça tombait. Il y avait des fleurs, c'était un balcon. Il y avait des filles en jupons, des gars en culottes de peau. Ils venaient danser à 7-8, hein, comme ça. Ah, moi, je trouvais que c'était fabuleux. Donc, quand ils m'emmenaient voir des opérettes, c'était ça.
Vous avez vu Annie Cordy aussi ou pas ?
J'ai beaucoup vu Annie Cordy dans ma jeunesse, parce que c'était mes références. J'étais en cela assez différente de mes amis. Parce que moi, je me tapais Luis Mariano, Annie Cordy, les opérettes, quand les autres regardaient des trucs beaucoup plus marrants.
Ah oui. Mais ça veut dire que vos copains participaient aussi à un pan de votre éducation, alors ?
Ah ben oui, tout à fait. Ah ouais. Moi, j'étais entourée que de vieux. Donc, l'école, c'était un champ merveilleux voilà, d'amusement. J'étais avec des jeunes, sinon j'étais que avec des vieux. Ouais.
Et
que j'aimais bien aussi, hein, parce qu'ils sont vraiment marrants.
Mais oui, ils avaient l'air chouettes.
Ah ben non, mais tous, ils étaient complètement dingues, en fait. Parce que quand t'es vieux, surtout à l'époque, peut-être aujourd'hui c'est un peu différent, mais t'en as un peu plus rien à foutre. Tu dis exactement ce que tu penses, comme t'as envie de le penser, et comme tu le dis, et du coup, il n'y a aucun filtre. Donc c'est extrêmement drôle.
Oui.
Ouais.
Et donc, c'est une de vos amies à l'adolescence qui vous emmène dans un ciné-club, parce que les films, vous les voyez essentiellement à la télévision.
Absolument.
Alors moi, c'est quelque chose que je comprends tout à fait, parce que j'ai grandi à une heure d'ici, plus au nord. Bon, il y avait un cinéma, mais avec des blockbusters, donc on regardait les films à la télé. J'avais pas de ciné-club. Ouais. Ça m'aurait peut-être ouvert une petite étincelle bien plus tôt.
Ah, moi,
ça
j'ai
été une révélation.
Ah oui, oui, j'ai eu l'impression qu'il y avait un... Il y avait une porte qui s'ouvrait sur le monde que j'avais même pas imaginé.
Et vous avez perçu tout de suite la différence entre ce qu'on vous donnait à voir à la télévision, qui devait être plus populaire pour fédérer, et ce qu'on vous donnait à voir dans le ciné-club. À l'adolescence, vous avez percuté tout de suite.
Ah oui, j'ai percuté tout de suite, oui, parce que quand tu vois des trucs avec... Des films grand public, toujours avec la fille, c'est une potiche, ah, elle chiale tout le temps, si elle est marrante, c'est une vieille moche. Enfin, je veux dire, c'était horrible en réalité, mais je le captais, moi. Je me disais, mais c'est tellement que des archétypes. Et puis l'homme était toujours un héros, quand la femme était toujours fragile, a besoin... Et moi, déjà petite, ça me faisait un peu tiquer, en fait. Et c'est vrai que quand elle m'a fait voir les films américains, bon, ça n'a pas beaucoup changé, mais au moins... Ça
va peut-être même s'empirer, d'ailleurs.
C'était le même truc, mais en réalité, je me suis retrouvée à voir Délivrance, des trucs que j'imaginais pas et qui m'ont fascinée. Vraiment fascinée. Après, j'ai vu un film qui reste majeur dans ma vie, qui est le film de David Lynch, qui s'appelle Elephant Man, qui m'a vraiment provoqué des émotions très fortes. En fait, à partir de là, j'ai senti que le cinéma, c'était pas seulement ce que je voyais à la télé. Voilà.
J'ai reçu Franck Dubosc dans Bistroscopie, cette émission, il y a quelques mois, et il nous a raconté que vous jouiez avec lui dans des courts-métrages.
Ah oui, oui, quoi. Oui, oui, tout à fait. Il écrivait déjà, tout ça, parce que comme on vient de Rouen tous les deux, on faisait partie d'un groupe, d'une troupe qu'on avait montée avec d'autres, et on jouait des pièces de théâtre pour les petits frères des pauvres, tout ça. On faisait des tournées, je sais pas comment on se débrouillait. Moi, je m'en occupais pas. Mais Franck déjà écrivait, il était très très moteur, et on avait fait avec ce groupe-là des sketchs. Et donc on se produisait dans une espèce de boîte de nuit, je crois. Et vraiment, on riait, mais énormément.
Ouais. Et vous l'avez vu, j'imagine, vous étiez là, au César. Vous l'avez vu faire son sketch.
C'est hyper bien, non ?
Vous qui l'avez connu à cette époque-là, et qui le voyez avec son mini César, recevoir le César de celui qui n'a pas reçu de César, pour si vous n'avez pas vu.
C'est très drôle.
Reconnu, c'est lui, tel qu'en lui-même.
Oui, bien sûr, parce que Franck, il est très intelligent. Il est très sensible, il est très intelligent.
C'était pour lui aussi une manière de montrer de façon très élégante et très drôle une forme de snobisme du cinéma français, peut-être.
Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça, et je trouve que j'en suis la preuve en plus. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Il y a tout le temps de la place pour tout le monde partout. On croit toujours qu'il y a pas de place pour soi ou que. C'est peut-être plus simple d'avoir une forme d'amertume en disant « il n'y a pas de place pour moi », mais en fait, la place, personne ne te la donne, tu vas la chercher, c'est tout. Et parfois, il faut avoir le courage de se voir avec lucidité, de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, de ne pas trop se raconter d'histoires et de... Voilà, mais en réalité, je ne trouve pas que le cinéma soit snob. Je trouve que le cinéma, il laisse la place à tout le monde, et peut-être même encore plus qu'ailleurs, à des gens très différents... On a beaucoup parlé des acteurs asiatiques, arabes, noirs, qui étaient peu représentés. C'est vrai. Et heureusement, ça change. C'est encore assez... C'est un mouvement qui doit s'amplifier, mais ça change et c'est vraiment bien. Mais il y a quand même de la place pour tout le monde et il y a de la place pour toutes les personnalités. Hein.
Et puis, trouver sa place est essentiel dans la vie et dans son métier. Vous disiez tout à l'heure, au début de cette émission...
C'est surtout que ceux qui ont des problèmes de place créent vraiment des guerres, je trouve.
Des guerres
oui, c'est à grande échelle ou à toute petite échelle. En fait, quand tu as un problème de place, c'est vraiment un énorme problème, je trouve.
Vous évoquiez tout à l'heure le César qui vous a légitimé, dites-vous. Est-ce que ce premier César que vous recevez, vous pouvez dire que c'est à la fois la charnière de votre carrière et peut-être le rôle d'une vie ? En ce sens, on sait à un moment qu'on a le rôle de sa vie dans une carrière ?
Non. Non, parce qu'il y a l'expérience intime que tu vis en interprétant ce rôle. Et puis il y a après, comme il est plébiscité. Et ça concorde pas forcément. Parfois oui, mais pas forcément. Je trouve que c'est bien sur un chemin qui est des jalons, qu'un chemin soit jalonné de souvenirs, d'événements, de choses un peu... un turnover.
Elle est déjà dans sa série anglaise.
De moments où ça change un peu la direction, mais en gros, c'est... La vie ne cesse d'avancer et moi, en tout cas, j'ai l'impression de ne cesser d'avancer, de me renouveler, de m'interroger, de changer, de me dire tiens, je me suis trompée. Et en fait, c'est un perpétuel mouvement. Donc, je dans ma tête, en tout cas, je n'arrête pas ce mouvement à ce moment-là. C'est que des petits jalons, en fait. Et c'est vrai que ce César de la meilleure actrice, je l'ai accueilli, je me suis dit waouh, je me suis revue petite avec mes grands-parents allongés. Il faut encore qu'elle nous fasse chier à regarder cette émission. Mais je dis s'il vous plaît, est-ce qu'on peut regarder exceptionnellement tout ça ? Et d'un seul coup, je me suis vue de l'autre côté et j'ai trouvé ça vertigineux. Donc c'était la petite Karine de Bois-Guillaume qui me faisait un petit signe. Et en même temps, je me suis dit bon, ça veut dire que là. Mes pères me valident et ça voulait dire quelque chose, mais je ne me suis pas du tout arrêtée à ça en fait.
J'ai relu des interviews de vous, Karine Viard, de 95. Vous avez 29 ans, je pense, à ce moment-là. Et on vous demande.
Non, je suis beaucoup plus.
Vous n'étiez pas née, hein, peut-être. Oui, c'est ça.
Oui, beaucoup plus.
Mais le journaliste vous demande de vous projeter dans 30 ans.
Ah!
Donc. Aujourd'hui.
Et ouais.
Hey, vous avez vu.
Qu'est-ce que je dis?
Et vous dites, plus tard, je voudrais être... Vous vous rappelez pas?
Pas du tout.
Plus tard, je voudrais être... Vous avez cité plusieurs noms d'actrices. Et puis vous avez dit, non, Jean-François Stévenin.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'était en 95, ça. Bah, parce que Jean-François Stévenin, je trouvais que dans le paysage du cinéma, il était vraiment quelque chose... mais qu'il était très particulier, il était vraiment libre, il était beau et pas beau, il était drôle et pas drôle, il était dingue et complètement concret. Oui, j'aimais beaucoup cet acteur, c'est vrai, c'est vrai.
Votre prochain film, l'un de vos prochains films, devrait raconter l'histoire du quotidien de la Maison des Femmes à Saint-Denis, c'est exact ?
Exact, absolument.
Et vous avez aussi tourné avec Costa Gavras, donc, et incarné des rôles politiques. Est-ce que cette dimension-là a pris de l'importance au fur et à mesure pour vous ?
C'est quoi cette dimension-là ?
Cette dimension politique à travers les œuvres. Quand vous regardez votre parcours.
Moi, je pense que malgré moi, il y a quelque chose qui se dessine. Ça ne m'a jamais intéressée de jouer des rôles de filles qui sentent bon et qui ont raison de penser ce qu'elles pensent. Je trouve que c'est très rasoir, comme dans la vie, en fait. C'est la complexité, c'est qui rend les choses un peu intéressantes. Donc, j'aime bien jouer des personnages pas forcément aimables, des gens...
Donc, politiques, hein, on est d'accord.
Après, j'aime bien aussi... donner leurs lettres de noblesse aux gens qui n'ont pas souvent voix au chapitre. Mmh. Ça, je trouve que c'est chouette quand on les représente au cinéma et qu'on peut s'identifier à un héros hyper populaire. Donc ça, j'aime beaucoup, mais j'aime bien jouer exactement l'inverse aussi. Mmh. J'aime pas le cinéma qui dit « Oh là là, ces bourgeois qui habitent dans des belles maisons, ces gens-là aussi, ils ont des histoires passionnantes à partager. » Donc, je ne m'arrête pas à ça. Je pense qu'en tout cas, le cinéma... j'ai dit ça au César dans le discours que j'ai dit pour Costa Gavras, mais je pense que le cinéma, comme la littérature, a le pouvoir de changer le monde, quand même. Je pense qu'il peut y avoir des émotions collectives, partagées, qui nous amènent à nous déplacer, à nous rendre meilleurs, à nous faire considérer les choses avec un peu plus de distance. C'est peut-être un vœu pieux, mais j'aime penser ça. Donc, dans cette mesure, je pense que, voilà, que les grandes émotions collectives autour de sujets qui nous réunissent tous, mais qui demandent de la rigueur, de la dignité, de l'authenticité, de la sincérité, mais beaucoup de rigueur, pour pas verser dans une espèce de complaisance émotionnelle. Je trouve que quand on touche ça du doigt avec des sujets de société, ça peut être un raz-de-marée, en fait. Et c'est vrai que là, je ne sais pas ce que sera le film, puisque je ne l'ai pas encore vu. Mais on a fait un film qui s'appelle « La maison des femmes » et qui raconte le combat d'un groupe de femmes et d'hommes pour soigner les femmes qui arrivent, qui ne savent plus quoi faire, qui sont tabassées, qui ont des gosses, des femmes qui ont été excisées, qui ne savent même pas qu'elles sont excisées, qui ne savent même pas que les sexes féminins ne sont pas comme le sien et qui ont mal sans arrêt. Toutes ces femmes-là, toutes ces brutalités, toutes ces violences faites contre les femmes, en fait... Il y a une poignée d'aficionados qui essaient de sauver, d'extirper ces femmes-là de la nuit noire, qui essaient de leur dire qu'elles ont des droits, qu'elles existent, qu'elles ont voix au chapitre et que ce qu'on leur fait subir n'est pas normal. Et c'est éblouissant, en fait. Le travail de ces gens-là est éblouissant. Ça demande à la fois de la conviction, de l'abnégation, de l'intelligence et ça donne aussi du sens à sa vie. Et c'est l'histoire de ce petit groupe de femmes et d'hommes qui travaillent ensemble. Et je crois que c'est super. Et je pense que du coup, ça devient politique. C'est-à-dire, c'est pas ce féminisme d'aujourd'hui dans lequel moi, je me reconnais pas parce que je suis trop âgée. Mais c'est un féministe complètement humaniste, en fait, qui prend les hommes et les femmes par la main pour leur dire « Ensemble, construisons la société de demain. Ce patriarcat fait aussi souffrir les hommes, en réalité, parce que ça les oblige, parce que ça leur impose un nombre de trucs qui représentent aussi une forme de violence. Pas la même, mais aussi. Mmh. » Donc, voilà, j'ai foi, et ce film, j'espère, nous le permettra. J'ai foi en l'homme et à l'idée qu'ensemble, hommes et femmes, on peut construire une société plus égalitaire pour le bien de tous.
Karine Viard, pour terminer, vu le contexte international, comme on dit dans toutes les conversations...
C'est quoi le contexte?
Oh, écoutez, légèrement tendu, on va dire, légèrement anxiogène. Les séries sont et le cinéma reste un refuge, pas que, évidemment, un refuge et...
Moi, c'est quand même un espace de liberté, c'est un espace d'expression. Alors, c'est de plus en plus, comment dire, marketé, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des gens qui sortent des grandes écoles, qui s'emparent du cinéma ou de la télé comme ils s'emparent d'un produit marketing, en fait. Et ça, c'est un problème, mais il y a quand même toujours des gens très intelligents et assez visionnaires pour arriver à extirper quelques œuvres et en faire des produits d'exception. Donc, quand c'est le cas, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment des endroits de liberté.
Ça va devenir subversif de faire du cinéma.
Ben, ça l'est déjà un peu, en fait. Tu donnes à voir des choses dont on ne parle pas. Moi, je me souviens que quand, avec... maintenant, ça semble déjà très démodé, mais c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 7 ans, quand est sorti Les Chatouilles de Andréa Bescon, les violences intrafamiliales sur les enfants, etc. C'était des trucs dont on parlait, mais pas tant que ça non plus, en fait. Ce film a servi à... Derrière, il y a eu tout un cortège de films d'auteurs, de gens qui témoignent, etc. Mais à l'époque, moi, quand j'ai vu le spectacle au théâtre, c'était il y a 9 ans, et puis après, on a fait le film un an après, c'était pas du tout comme c'est maintenant. Pareil, quand j'avais fait « Oh, les cœurs », où c'était l'histoire d'une jeune femme qui, enceinte de son premier enfant, apprend qu'elle a un cancer. À l'époque où on tourne ce film-là, d'abord, on ne pense pas que les jeunes ont des cancers. Ça n'est dit nulle part. Et en plus, c'est un peu la honte. On sait que, bon, on peut te serrer la main, qu'on ne va pas attraper le cancer en te serrant la main. Mais pour autant, on n'en parle pas, c'est la honte. Tu ne peux pas travailler en ayant le cancer. On te regarde, quand tu as le cancer, on se dit, oh là là, la pauvre, elle est mourante. Enfin, je veux dire, on a sorti le cancer de cette espèce de gang, de croyances absurdes. Et ce film... a fait le tour et continue d'ailleurs de faire le tour de colloques, de médecine, etc. Donc, pour comment s'adresser aux patients.
Ah oui, ça sert de modèle.
Ouais, mais aujourd'hui, moi, ma mère est décédée d'un cancer, donc du coup, j'ai côtoyé pas mal d'oncologues. Mais c'est dingue ce que ça a changé. Ces gens sont super, des oncologues à l'hôpital public. Ils considèrent pas du tout le patient comme quelqu'un qui comprend rien. Il parle pas à la famille dans le dos du patient. Ça n'existe plus, tous ces trucs-là. Et je m'en réjouis vraiment.
Et on peut le voir d'ailleurs aussi dans votre apparition à la fin du film de Costa Gavras, Le Dernier Souffle, que je vous recommande chaleureusement aussi. Ainsi que toutes les séries, bien sûr. Merci beaucoup, Karine Viard.
Merci, c'était très agréable.
J'étais ravie de vous recevoir et je pense que le public aussi.
Merci beaucoup.
De Lille, c'était un plaisir. Passez une très bonne semaine à Lille. Et mettons en valeur toutes ces séries et bon séjour dans le jury.
Merci beaucoup.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme. Merci à Anaïs Reynard à la réalisation. Et à Benjamin Chauvin, chargé de production, aux techniciens Nicolas Mathias, Andreas Jaffré, Charles Bouticourt. Merci à Valentine Guédiguian qui nous a accompagnés, ainsi qu'au régisseur du CCI à Lille, Damien Collin.